Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Jacques, séquence poésie oui. Ce vendredi à l'occasion du marché de la poésie qui se tient à Paris.
Voilà, 36e édition du nom, Place Saint-Sulpice, je précise. Et donc c'est jusqu'à dimanche, c'est le Québec qui est l'invité d'honneur cette année. Merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
À tout à l'heure.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Le marché de la poésie, c'est donc 500 éditeurs et revues de poésie et de création littéraire provenant de la France entière ou d'autres pays d'Europe et d'autres continents, des lectures, des rencontres. La manifestation s'est imposée au fil du temps comme un rendez-vous incontournable. C'est l'occasion de s'attarder dans les allées et les écarts de cette forme si particulière d'écriture et de son inépuisable énergie créatrice. La dernière livraison de la revue Cité, publiée par les PUF, publie un dossier sur la poésie dans la cité. Audrey Vermeuten y rappelle cette petite fable de l'art poétique de Roger Caillois, celle du mendiant aveugle sur le pont de Brooklyn à New York. Un passant lui demande combien les gens lui donnent en moyenne. « À peine $2 par jour », répond le malheureux. L'homme lui prend alors la pancarte qui mentionne son infirmité, écrit quelque chose au verso en assurant au mendiant que la phrase devrait augmenter notablement ses revenus. Un mois plus tard, il repasse voir le mendiant qui s'exclame « Comment vous remercier? Je reçois maintenant 10 voire $15 par jour » et il lui demande ce qu'il a donc écrit sur sa pancarte. À la place de la mention « aveugle de naissance », l'homme avait écrit « Le printemps va venir et je ne le verrai pas ». Il y a presque autant de définitions de la poésie que de poètes, et les arts poétiques, manifestes et autres programmes sont le plus souvent l'expression personnelle ou collective d'une volonté de renouveler le genre en lui apportant une contribution originale. Dans le cas de l'anecdote de Caillois, Audrey Vermeuten rattache la conception qui s'en dégage à l'esthétique surréaliste, le jeune Caillois ayant été un proche de Breton et de ses amis. La ville, forme changeante, lieu par excellence de la flânerie et de la rencontre, constituerait à cet égard l'espace le plus fécond pour qui sait se rendre disponible au merveilleux quotidien, résume-t-elle. On se souvient des pages de Roman Jacobson, grand lecteur de poésie, dans les essais de linguistique générale, sur la fonction poétique du langage, distincte de sa fonction référentielle, et qui prend le langage lui-même pour objet en jouant des relations entre le signifiant et le signifié. La poétique est une approche extrêmement éclairante de la poésie, mais le regard porté par les poètes eux-mêmes ne l'est pas moins. La revue Rehaut, présente au marché de la poésie, publie depuis des années les poètes d'aujourd'hui. Sa dernière livraison, un numéro spécial 20e anniversaire, nous fait découvrir les textes de 12 plus une femme. Dans chaque numéro, ou presque, Jacques Lèbre promène son regard curieux sur les parutions récentes. Le poète sait dire les affinités électives, comme avec Paul Deroux, dont la discrétion, écrit-il, n'était pas une posture mais une conscience. Il s'agit en l'occurrence d'une lecture rétrospective et globale orientée par le fil conducteur du mot « vie ». Comment vivre, c'est-à-dire comment être présent à ce qu'on fait, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on éprouve, serait le souci constant de Paul Deroux dans ses poèmes et carnets, et même en creux comme dans « Paysages en cours ». Entendre au loin le train que l'on n'a pas pris, comme le fantôme de la vie que l'on n'a pas vécue, et qui pèse sur vous plus lourde peut-être que celle que vous croyez avoir vécue. Il peut arriver que la vie étrangle les poètes. Dans un beau texte d'hommage à Ossip Mandelstam, publié par les Inrecuptibles à l'occasion de la parution de ses œuvres complètes, Lydie Salvert égrène la longue liste des poètes russes décimés par la terreur stalinienne et s'arrête sur le cas de celui dont la poésie tendre, mélancolique, aimante, se situait très loin des entortillements futuristes pour lesquels embrocher un mot compliqué au bout d'une aiguille à tricoter est la jouissance suprême. Intraitable esprit libre, il continue à écrire même sans être publié, jusqu'à la célèbre épigramme contre Staline qui circule sous le manteau et signe son arrêt de mort. Après de violents interrogatoires où on essaie de lui extorquer les noms de ceux à qui il a lu l'épigramme, il tente de se suicider dans les locaux de la Loubianka avec une lame gilette et, pour sauver sa peau, finit sous la contrainte par composer une ode à Staline. Lire cette ode, écrit Lydie Salvert, Et pour moi, chaque fois la même douleur, j'imagine ce qu'elle dut être pour Mandelstam et la violence monstrueuse qu'il dut s'infliger à lui-même pour rédiger l'éloge de l'homme qu'il avait détruit au point de l'amener à ce geste. Il ne lui survécut que quelques mois. Déporté en Sibérie, il mourut le 27 décembre 1938 dans un camp de transit près de Vladivostok, de faim, de froid et de désespoir. Il avait dit dans l'un de ses derniers poèmes, ajoute Lydie Salvert, « Et que tout éternellement recommence, je fais ici le vœu que son œuvre en nous éternellement recommence. »